Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Quand on évoque le nom d'Edison, on pense immanquablement à l'ampoule électrique. Cette compagne de notre vie quotidienne est tellement liée à la notion de génie qu'elle est devenue le symbole, l'icône de toutes les idées lumineuses. Mais Edison n'a pas créé que l'ampoule à incandescence, loin s'en faut. Il a déposé près de 1000 brevets, parmi lesquels le phonographe qui enregistre et diffuse les sons, le kinétoscope, ancêtre du cinéma. Quelle fut la vie de celui dont le nom est indissociable de la naissance de l'Amérique moderne ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, Bad Boy. New York, 21 octobre 1929. Thomas Edison est assis sur l'austère chaise de bois de son laboratoire. À côté de lui, son assistant de toujours, Francis Jell, et le président des États-Unis, Herbert Hoover. Les journalistes sont sur des charbons ardents. Tous attendent l'événement dont la presse parle depuis des semaines. À l'occasion du 50e anniversaire de l'invention de la lampe à incandescence, son génial inventeur, Thomas Edison, va reproduire devant les appareils des photographes les gestes mêmes de la fabrication de l'ampoule qui a révolutionné l'éclairage des maisons et des rues du monde entier. C'est l'instant attendu. Edison, aidé par Yell, introduit un filament de coton carbonisé dans l'ampoule de verre. Avec une pompe spéciale, on fait ensuite le vide, puis on allume. À l'instant précis, la radio diffuse sur toutes les ondes du pays le message enthousiaste « Que la lumière soit !» Lors de cet anniversaire, Edison a passé les 82 ans. C'est un homme déjà couronné de gloire que célèbre aujourd'hui l'Amérique. Une vie passée à multiplier les inventions en tout genre, inlassablement. Mais l'empire que dirige Edison à l'aube des années 30 ne s'est évidemment pas fait en 3 jours. Les débuts de l'inventeur ont été rudes. Et son enfance, pour le moins tumultueuse. Les années de jeunesse de Thomas Edison sont celles d'un mauvais sujet, d'un garnement, comme on disait en Europe à cette époque. Il naît le 11 février 1847 à Milan, dans l'Ohio, où ses parents possèdent un petit commerce de bois. Dès son plus jeune âge, il se montre turbulent. Il fugue. On le retrouve traînant du côté du canal ou caché dans un silo à grains. Et quand il ne s'amuse pas à couver des œufs dans la basse-cour, il se livre à des expériences aussi excitantes que dangereuses, comme mettre le feu à la grange, par exemple. À la maison, les coups pleuvent. Mais aucune correction ne peut venir à bout de ces débordements. La famille déménage à Port Huron, près de Détroit. Lorsque Thomas entre à l'école pour la première fois, il a déjà 7 ans. Il s'y ennuie à mourir. Ce n'est pas qu'il se refuse à apprendre, non, pas du tout, mais ce qu'il veut, c'est de la pratique. C'est un touche-à-tout. Il a besoin de toucher, de rafistoler, de mélanger, d'expérimenter. Seul dans le sous-sol de la maison familiale, il fait des expériences chimiques qui parfois tournent à la catastrophe. Alors cette fois, c'en est trop. Avec sa famille, l'incompréhension et l'hostilité sont telles qu'il doit quitter le domicile familial à 13 ans. 13 ans, le voilà seul au monde. Il ne se démonte pas, se fait embaucher par la toute nouvelle compagnie de chemin de fer exploitant la ligne qui relie Détroit à Portland. Quel est son job ? Eh bien, il est vendeur de journaux. Et 2 ans plus tard, cet adolescent incontrôlable est devenu un garçon travailleur qui, lorsqu'il ne vend pas des revues ou des fruits et légumes dans les wagons, passe son temps à la bibliothèque de Détroit, dont il lit tous les ouvrages méthodiquement, depuis le bas jusqu'en haut des rayons. Cependant, dès ces années-là, une sourdité partielle affecte son audition. Infection ou accident, nul ne le sait vraiment. Dans ses mémoires, il raconte qu'un employé de chemin de fer, après l'avoir empêché d'attraper un train qui démarrait, lui a donné une gifle monumentale.
Un employé m'attrapa par les oreilles et me tira à lui. J'entendis alors un craquement et c'est peu après que je commençais à devenir sourd. Si cet homme est responsable, il m'a tout de même sauvé la vie.
Edison aime bien son travail à la compagnie ferroviaire. Cette vie en mouvement lui convient. Et puisqu'il distribue des journaux, il décide un beau jour de publier le sien. Il installe une imprimerie improvisée dans un wagon vide, acquiert la presse à vis nécessaire. Sa gazette, le Grand Trunk Herald, du nom de la compagnie ferroviaire, est tirée à 400 exemplaires. Un esprit fort, un esprit puissant, s'est tiré parti des bonnes choses comme des mauvaises. En 1862, quand la guerre de sécession fait rage en Amérique, Edison observe que les voyageurs se jettent goulûment sur les nouvelles quand elles arrivent. Il va trouver là l'occasion de se faire remarquer. Si l'on veut que les gens soient prévenus à temps des nouvelles importantes, il faut pouvoir les télégraphier rapidement dans chaque gare. Ainsi, on pourra vendre des milliers d'exemplaires de journaux.
J'étais certain que les gens des petites villes se jetteraient avidement sur les journaux pour y lire comment 60 000 hommes des armées du Nord et du Sud avaient trouvé la mort au cours de ces combats sanglants. L'occasion me sauta aux yeux. Je pouvais faire une vente énorme à condition que le long de la ligne, les gens soient prévenus de l'événement.
Enthousiaste, il convainc le chef de gare de Détroit de faire envoyer un télégramme à chaque gare pour chaque nouvelle du front. Les passagers se jettent avidement sur ces journaux. Le succès est même tel qu'il décide d'organiser une vente aux enchères pour ces journaux au terminus de la ligne. Il a maintenant 16 ans et pense avoir trouvé sa vocation. Il sera télégraphiste. Une spécialité particulièrement recherchée en temps de guerre, ce qui lui permet de se faire embaucher rapidement. La plupart des télégraphistes ont été réquisitionnés. Les places ne manquent pas. Il se construit un petit télégraphe de fortune, se perfectionne tout seul, puis se fait recruter dans l'équipe de nuit des télégraphistes de la compagnie ferroviaire où il a fait ses débuts. Mais s'il maîtrise parfaitement son métier, Thomas Edison ne peut pas, ne veut pas devenir un petit employé bien sage et bien rangé, se pliant aux règles de la vie professionnelle. Et bien vite, il multiplie les gaffes. Il écope d'abord d'un blâme pour s'être endormi sur sa chaise et avoir failli causer une collision entre deux trains. Il est indiscipliné, insolent. Durant plusieurs mois, il cumule les avertissements, les mises à pied et finit par être tout bonnement renvoyé. Mais, d'une certaine manière, le voici enfin libre. Et comme il est très doué, il a déjà acquis la réputation d'un virtuose du télégraphe, un rapide de la gâchette. Il devient télégraphiste itinérant et parvient finalement à se faire recruter à la Western Union, entreprise qui est en tête des sociétés de télécommunications.
Sa vitesse était fulgurante. Elle faisait le désespoir des opérateurs, même confirmés, qui souvent étaient contraints de l'interrompre pour lui demander de répéter.
Devenu télégraphiste de première classe, il travaille comme un forcené pour un salaire de misère. Nommé à Boston, il accepte le défi de se mesurer au télégraphiste réputé le plus rapide d'Amérique. Tandis que son rival s'en mêle dans les signaux au bout de quelques minutes, lui ne se démonte pas. Devant ses collègues médusés, il prend même le temps de tailler son crayon entre deux messages envoyés. À 21 ans, Edison est à présent le télégraphiste le plus rapide de la côte Est. Mais durant ses heures de travail, son esprit ne cesse de cogiter. Envoyer des messages en tapotant sur un bouton est une activité mécanique pour laquelle il n'a plus besoin d'aucune concentration particulière. Une question le taraude. Comment envoyer des messages encore plus rapidement ? et comment en envoyer plusieurs en même temps. C'est à ces innovations techniques qu'il souhaite désormais s'atteler, à celles-ci et à d'autres d'ailleurs, car il veut contribuer au progrès, à la prospérité de son pays. Il ne doute pas de son talent, il ne doute pas de sa bonne étoile. S'il a su maîtriser si rapidement le télégraphe, c'est qu'il peut aller plus loin encore. C'est décidé, il sera inventeur. Il était déjà un ardent lecteur, il dévore à présent les ouvrages scientifiques, se passionne pour les pionniers de l'électricité et de la mécanique. Sa première invention, une machine à voter, ne trouve aucun acquéreur. Il pensait pourtant faire œuvre démocratique, mais non, peine perdue. Il met donc au point le fameux système capable d'envoyer plusieurs télégraphes au même moment. Mais là encore, c'est une déception, le système ne remporte pas le succès escompté. La Western Union, lassée par cet employé qui perd son temps à mettre au point des machines qui ne servent à rien, le licencie. Et c'est finalement un incident qui va donner un coup de pouce à son destin d'inventeur. Alors qu'il est hébergé dans le sous-sol de Wall Street, la bourse de New York, le transmetteur électrique permettant de diffuser le cours de l'or en temps réel tombe en panne. Edison se porte volontaire pour la réparation. En 2 heures, il relance la machine. Le directeur de la bourse vient trouver ce jeune homme de 22 ans qui a sauvé la bourse américaine. Il l'embauche immédiatement. Ceux qui boudaient ses inventions se mettent à lui passer commande. Mais Edison est un esprit pratique. Et surtout, ça n'est pas un naïf. Il comprend que l'heure est venue de donner à son projet une dimension supplémentaire. Il faut voir les choses en grand. Alors il fonde une compagnie dont l'objet est la fourniture de tout le matériel nécessaire à la maintenance des télégraphes. Et puisque la Western Union, qu'il avait si gentiment remercié, le sollicite à nouveau, il lui propose un marché. Lui donner l'exclusivité de ses services en échange d'un financement illimité de ses recherches. En 1870, celui qui, du haut de ses 23 ans, est déjà un homme d'affaires aguerri, installe ses bureaux à Newark, dans le New Jersey. C'est dans ses propres locaux qu'il fait plus ample connaissance avec l'une de ses employées, Mary Stilwell. Mais l'homme qui, lorsqu'il était adolescent, pouvait boxer ses employeurs, avec les femmes, est un grand timide. Il ne sait pas comment lui déclarer son amour.
Au début, ma surdité me fournissait une excuse pour m'approcher de ma bien-aimée bien davantage que je n'aurais osé le faire. J'avais enseigné à l'élu de mon cœur le code Morse. Ce fut en utilisant cette méthode que je lui demandais si elle voulait m'épouser.
Une demande en mariage en Morse, c'est tout Edison. Le 25 décembre 1871, eh bien, il se marie. 3 enfants naissent de cette union. Les 2 premiers héritent des surnoms pour le moins originaux de Dot et Dash, c'est-à-dire point et trait. Voilà ce que c'est que de déclarer sa flamme en Morse. Pour Edison, le bonheur domestique, la paix de son foyer agissent comme des dopants, galvanisent son imagination. Il met au point un télégraphe automatique qui connaît d'emblée un succès fulgurant. Ce nouveau dispositif permet d'envoyer 20 000 mots en 20 minutes. C'est vertigineux. Dans le flot des succès, il y a bien parfois certains échecs, comme cette tentative avortée de développer un système sous-marin de transmission. Mais ça n'est là qu'une péripétie. Edison est toujours sur plusieurs fronts à la fois. Quand il échoue quelque part, il ne s'attarde pas, il contourne l'obstacle et passe à autre chose.
En essayant de perfectionner un appareil quelconque, il m'arrive de me heurter brusquement à un mur de granit haut de 100 pieds. Si, après avoir essayé une seconde, une troisième et une quatrième fois, je ne réussis pas à franchir ce mur, je me tourne vers un autre travail.
En février 1876, Edison s'installe à Menlo Park, non loin de New York. Il y crée un gigantesque complexe, à la fois atelier et résidence, où ses collaborateurs le rejoignent, certains logeant eux aussi sur place. À presque 30 ans, Thomas Edison a déjà déposé une dizaine de brevets. Alors bien sûr, Cela suscite des jalousies. On l'accuse d'avoir trahi ses anciens employeurs, de négocier avec leurs concurrents. Ses partenaires ne voulaient pas de son télégraphe quadruplex. Qu'à cela ne tienne, il l'a vendu au plus offrant de leurs concurrents. Évidemment, de telles pratiques ne lui suscitent pas que des amis et les plaintes contre lui s'accumulent. Celui qu'on nomme déjà « le vieux » est au fait de ses moyens, de sa créativité, de son génie. Son esprit est un laboratoire où mille idées fourmillent en même temps. Quelles nouvelles inventions spectaculaires Thomas Edison va-t-il mettre au point dans les premières années passées à Menlo Park ? Comment ce bourreau de travail va-t-il concilier sa vie de famille et son activité d'inventeur et de patron ? Comment l'Amérique va-t-elle recevoir ces incroyables découvertes ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans la deuxième partie de cet épisode.